ville PM. La voie est libre.
On salue les gens de la Mauricie et du centre du Québec qui nous écoutent au 106.9. Luc Lavoie, bonjour.
Salut Bernard.
Alors, petit spécial, Luc, aujourd'hui. Je connais ta fascination pour la chose militaire.
Oui, bien sûr. C'est mon implication.
Oui, ton implication dans le régiment de...
Fusiliers Mont-Royal.
Voilà. Et là, tu seras d'accord avec moi, Luc, Léo Major, ça a été un grand militaire de notre histoire, pas suffisamment connu. Et là, on accueille ensemble son biographe, Luc Lépine. Bonjour, M. Lépine.
Bonjour.
Alors, vous êtes historien militaire, conférencier, auteur, donc, de ce livre sur Léo Major. Là, prenons pas pour acquis que tout le monde sait qui il est. Résumez-nous ce qui a fait de lui la légende qu'il est.
Bon, sa légende de Léo Major, c'est que c'est un soldat canadien-français, québécois de Montréal, qui s'est enrôlé volontairement dans l'armée canadienne. Un bonhomme qui avait peut-être des problèmes de comportement un peu rebelle à l'autorité, qui s'enrôle dans le régiment de la Chaudière pour être les premiers à libérer l'Europe.
Il participe au débarquement de Normandie.
Le régiment de la Chaudière était le premier à débarquer.
Était parmi d'autres qui ont débarqué, oui. Mais le premier qui a mis les pieds en Allemagne.
Voilà.
Donc, il a atteint son objectif. Dès qu'il descend au débarquement de Normandie, son peloton est cloué sur la plage. Les Allemands sont dans un pillbox. Ils tirent sur le régiment. Il décide de prendre une bombe Bangalore, l'insère dans un trou dans le bunker et fait sauter le bunker. Et là, il est capable de capturer des ennemis.
Déjà, là, au moment du débarquement...
Déjà,
il fait preuve d'une grande bravoure.
Exactement.
C'est un tireur d'élite, soit dit en passant.
C'est un tireur d'élite. Il est toujours signaleur. Il est en avant des autres. Il est capable de tirer très bon à la carabine.
D'ailleurs, on parle dans votre livre, c'est quoi, 27 soldats allemands qu'il aurait tirés?
Non, il aurait tiré au-dessus d'une centaine de soldats allemands quand son officier s'en est aperçu. Et Léo, il tirait avec son œil droit. 18 jours après le débarquement de Normandie, un 24 juin, il se propène autour de Carpiquet, qui est près de Caen. Et là, il y a une bombe lacrymogène, une bombe incendiaire qui saute à côté, lui brûle une partie du visage et le rend aveugle de l'œil gauche. Aussitôt, on lui dit, « Jeune homme, c'est fini la guerre, là. Tu t'en retournes chez vous. » Il dit, « Non, moi, je suis tireur d'élite. Le régiment a besoin de moi. » Il l'envoie un mois se faire hospitaliser et il revient avec son régiment comme tireur d'élite.
OK, les 27, là, c'est pour une seule journée. C'est votre livre que je cite. Pour la seule journée du 7 juin 1944, le lieutenant Gérard Leroux, officier d'intelligence, avait compté 27 soldats allemands tués par Léo.
Oui, 27 dans un seul jour.
Mais voyons donc.
Léo, il est toujours à l'extrême. À une journée, il a capturé 93 soldats allemands à lui seul.
Bon, là, vous allez nous le raconter. C'est ce qui se passe aux Pays-Bas.
Ouais, aux Pays-Bas, c'est ça la grande légende.
Aux Pays-Bas, les Canadiens, le régiment de la Chaudière, est rentré aux Pays-Bas. Et là, Taschereau, qui était le commandant de Léo, lui dit, là, j'ai envoyé des zombies, c'est-à-dire 50 jeunes recrues, un peu des gens inexpérimentés. Je les ai envoyés en mission, puis ils sont disparus. Il dit, Léo, va les retrouver, il faut savoir où sont ces gars-là. Léo s'approche et il y a un canal où il voit les soldats qui sont de l'autre côté. Il saute à l'eau, traverse le canal à la nage avec son arme. Et là, il saisit le premier soldat allemand qu'il trouve là et il met l'arme sur sa tempe et il dit, « Va réveiller les autres, je vous mets prisonnier. » Mais là, il faut savoir, c'est la fin de la guerre et c'est un régiment de soldats allemands qui sont tous hospitalisés. Ils ont des problèmes de vessie, de foie, des choses, mais ils sont bons pour monter la garde. Et en prenant, l'officier supérieur est capable de ramener les 93 soldats à lui seul.
OK, donc il y en a capturé pas loin de 100 là,
à pas ce loin
moment-là.
De 100.
Mais ça, c'est pas le grand exploit
c'est
de Léo Major.
C'est pas le grand exploit, parce que Léo, il en a fait d'autres grands exploits. Grands exploits près de la ville de Zwolle.
Oui.
C'est une petite ville hollandaise.
Un 50 peu comme 000 habitants, dit-on à l'époque.
C'est ça. C'est comme Québec, c'est une ville qui est fortifiée.
OK.
Les Canadiens vont bombarder la ville si dans 24 heures, les Allemands n'ont pas quitté. Puis là, quand ils vont bombarder la ville, il y a des civils qui vont mourir.
C'est sûr.
Léo, il s'en va comme éclaireur avec son ami Willie Arsenault.
Oui.
Il approche de la ville et là, Willie échappe une grenade, ça fait du bruit, puis les Allemands le tuent. Léo, il tombe dans les bleus, il dit, écoute, vous avez tué mon ami, moi, là, je vais libérer la ville à moi tout seul.
C'est incroyable.
C'est
un film d'Hollywood.
Il est parti dans un peu comme je dirais comme un Rambo. Là, il a pris la mitraillette de son ami, les 17 grenades qu'il y avait, puis les 10 magasins de munitions. Il rentre dans la ville, puis il commence à tirer à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et là, quand il est fatigué, il force une porte, il rentre se reposer 10 minutes parce qu'il vient exténué.
Le monde a peur quand il voit rentrer, mais quand il voit que c'est marqué Canada, là, ils se calment puis ils sont contents.
Ils sont contents parce qu'ils voient que c'est pas un Allemand. Imaginez, le gars, il arrive avec la patch sur l'œil, tout habillé en noir, le camouflage.
C'est ça, il a l'air d'un pirate, lui-là. Là.
Il a l'air d'un pirate. Il l'appelait le fantôme borgne. C'est-à-dire quand... Puis là, il y avait des légendes. Si tu vois le fantôme borgne, c'est fini. Là. Toi, tu viens de mourir là. Les Allemands en avaient peur.
C'est les Allemands qui en avaient peur, oui,
mais
c'est
Bernard,
ça.
Mais moi, j'aimerais ça qu'il nous parle de... Léo Major, là, parce que moi, j'en ai beaucoup entendu parler.
Là, mais attends un petit peu, là. Avant qu'on aille sa personnalité, moi, je veux finir Zola, là.
Okay, on va finir Zola,
okay. Zola, là. On n'a pas fini Zola, là.
Zola, il arrive Zola. Près du poste de la Gestapo, OK? Il met des grenades, il fait sauter, et là, il s'empare du major le plus élevé des Allemands.
Oui.
Il met une arme sur la tempe, puis là, il demande en hollandais, « Est-ce que tu parles hollandais? » Le gars, il dit non. « Est-ce que tu parles anglais? » Le gars, il dit non. Est-ce que tu parles français? Le gars, il dit, ben oui, je parle français, je suis alsacien. Fait que là, il dit, écoute, nous autres, là, les Canadiens sont tout autour. Dans 2 heures, les Canadiens vont bombarder la place puis vont rentrer. Fait que tu viens avec moi, la seule chance de sauver tes hommes, tu lui dis que les Canadiens s'en viennent, ils se promènent en camion, puis là, l'officier allemand ordonne à ses hommes de sortir par une des portes et quitter la ville. Puis pendant ce temps-là, les
rendez-vous, quitter la ville et rendez-vous aux Canadiens?
Non.
Non?
Quittez la ville, sauvez-vous, rendez-vous pas aux Canadiens, disparaissez dans la nature.
OK.
Et c'est ce que les gars vont faire. On est en avril 45, la guerre est presque finie. Ça, c'est la chance que les Allemands ont d'essayer de sauver leur vie.
OK, fait que ça se termine comment?
Ça se termine comment? C'est qu'à 7 heures du matin, il n'y a plus un seul Allemand dans la ville, parce qu'ils sont tous sauvés. Léo envoie un message à son commandant, il dit « La ville est libérée, les Canadiens s'en viennent, rentrent avec les chars d'assaut, les camions ». Et là, à ce moment-là, à 7 heures du matin, Léo va chercher le corps de son ami Willy qui est mort. Il le met dans une voiture puis il le ramène au camp militaire.
Là, je voulais lui parler de Léo Major parce que moi, j'en ai beaucoup entendu parler par des gens, pas nécessairement, mais des généraux du Royal Main 2e, tout ça. Il paraît que, comme beaucoup de soldats qui sont revenus de la guerre, c'était tout un numéro. Ça prenait un coup, c'était...
Il est revenu de la guerre, mais il avait des problèmes post-traumatiques. Le PDSB, là, ça, c'était comme ça.
Oui.
Il n'était pas capable d'entendre des
feux d'artifice.
Il y avait de la musique d'accordéon, il se mettait à pleurer.
Oui.
Et à un moment donné, dans la guerre, là, il est obligé de tuer des Allemands. À un moment donné, il en a tué deux. Son officier dit, il y a deux Allemands qui tirent sur nous. Il les a tués. Il s'aperçoit que c'était des gars de 13-14 ans. Fait que là, quand il voit un film de guerre puis il voit des jeunes Allemands, là, Léo, il se met à pleurer, là. Parce que son but, là, c'est pas de tuer des gens, c'est d'essayer de sauver ses collègues. Quand un Allemand est devant lui avec une arme, c'est une cible acceptable. S'il est désarmé, c'est un prisonnier de guerre, puis il faut le respecter.
Alors, mais il y a au Québec une sorte de réticence à reconnaître la bravoure et le courage de nos soldats qui ont combattu dans la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, quand je dis ça ici à la radio, là, Jacques Dextraz, commandant des fusiliers Montréal, lieutenant-colonel à l'âge de 29 ans, futur chef d'état-major des Forces armées canadiennes, personne ne connaît.
Triquet.
Paul Triquet.
Paul Triquet qui a eu la croix de Victoria, là. C'est ça, un des trois qui ont eu la croix de Victoria?
Il y en a plus que ça, mais c'est un...
Un des trois du 22e, non?
Oui.
Je pense que c'est ça. Et vous avez Dextraz qui est allé chercher Léo Major lui-même pour l'avoir en Corée. Parce qu'en Corée, c'est Dextraz qui dirigeait. Puis Dextraz voulait avoir un peloton spécialiste.
C'était tout
spécialiste.
Un soldat, Dextraz.
Dextraz était un numéro, puis Léo Major aussi, c'était un numéro. Fait que les deux ensemble. Lui, il faisait de la petite guerre, un peu comme les Amérindiens. Il se cachait, là, comme nos ancêtres, les miliciens.
La guerre de guérilla.
La guerre de guérilla. Léo Major, et j'ai interviewé 4 de ses copains de Corée, des gars de 85 à 90 ans, encore vivants, on dit. Avec Léo, là, on n'avait pas peur. Il était en avant. Le premier qui passait en avant, c'était Léo Major. Les autres suivaient.
Alors, sa grande force, c'était quoi? C'est une immense force mentale. Ce gars-là prenait beaucoup de risques. Il s'en est bien sorti, mais il devait être intelligent dans sa prise de risque.
Dans sa prise de risque, et il était chanceux. Je dois avouer que 99 % des gens qui feraient la moitié de ce qu'il a fait... décéderait. Il a été blessé à plusieurs fois. Il a perdu un œil. Il a sauté sur une mine au moment où il était en voiture.
Blessure au dos.
Au dos. trois vertèbres. On l'a, ça a pris une heure de l'enlever du champ de bataille à l'hôpital, puis à toutes les 15 minutes, on arrêtait pour lui donner de la morphine, tellement c'était douloureux. Et ça, c'est arrivé 2 mois avant de libérer la ville de Zwolle.
Pourquoi ça nous a pris tant de temps avant de reconnaître la valeur de cet homme-là? Parce que les Hollandais, eux autres, là, les Néerlandais...
En 1970, ils en ont fait un citoyen honoraire.
Ils sont au courant. Les Hollandais, ils savent ce que fait Léo Major.
Ben oui,
ils
y a une journée, là, la journée de la libération, c'est la journée de Léo Major. Le boulevard principal à Zwolle, il s'appelle Léo Major. Les jeunes connaissent l'histoire de Léo Major. Ils chantent, c'est quasiment un hymne national là-bas. Mais au Québec, on est un peu anti-militaire. Et Léo Major n'a pas été mis de l'avant nécessairement par les autorités militaires. Il y avait des petits problèmes d'alcool, il y avait des problèmes de comportement.
Il était bum un peu. Hein?
Il était bum un peu.
C'est une tête de cochon, là, on s'entend. Là. Un marabout, un bougonneux.
Pas un bougonneux, mais non? Une tête brûlée qui prend les ordres comme il veut.
Oh! Un rebelle.
Rebelle. En 1953, c'est l'armée canadienne, c'est le Royal 22e Régiment qui l'a mis dehors, qui l'a libéré.
Oui. Parce qu'il a commencé avec le régiment de la Chaudière, mais quand il était en Corée, c'était avec le 22.
Oui, parce que c'est le 22 qui est allé en Corée.
Il s'est passé quelque chose de drôle après la Deuxième Guerre mondiale en termes de ces soldats canadiens-français. Par exemple, récemment, à notre régiment, on célébrait un anniversaire et on n'a-t-il pas retrouvé quelqu'un qui avait été sacré dehors du régiment en 1946 alors qu'il avait participé à toutes les opérations des fusillés Mont-Royal, qui était un homme d'une bravoure inouïe, mais ils l'ont sacré dehors en 1946 parce que les nouveaux officiers qui ont pris le commandement du régiment, qui n'avaient pas fait la Deuxième Guerre mondiale, ils voyaient ce gars-là, puis ils prenaient un coup, puis ils faisaient la fête, puis on disait « Dors! » Puis là, ce gars-là, on l'a retrouvé par hasard, puis on a dit « Mais pourquoi tu viens pas au régiment? Il y a comme 91 ans ou quelque chose de même. » Ben, il a dit « J'ai toujours été gêné, parce que tu comprends, ils m'ont sacré dehors. » Ben non, venez donc, on a essayé d'en refaire un héros, mais c'est ça qui est arrivé à ces soldats-là.
C'est ça, parce qu'un coup mis dehors, c'est dur de le ramener. Et lui, il ne se mettait pas de l'avant. Même sa femme ne savait pas qu'il avait libéré une ville en Hollande à lui tout seul. Il a fallu attendre que les Allemands, que les Hollandais viennent le chercher en 70 pour qu'il explique. Sa femme...
Là, moi, j'ai plus de temps, mais je veux juste d'abord vous féliciter pour le livre. Je rappelle, le livre s'intitule « Léo Major, un héros résilient, l'homme qui libéra une ville à lui seul ». C'est publié chez Urtubise. Donc, Luc Lépine, ici présent. Bravo pour le livre. Là, il faut faire un film avec ça.
Mais il est temps qu'on fasse un film. Qui est envisagé?
Là, je sais qu'il y a, depuis quelques années, il y a des gens qui essayent de faire un film, le financement, mais il va falloir trouver quelque chose. Il faut les mettre de l'avant.
Où sont-ils, les gouvernements? Là, tu sais, quand on parle de culture, de célébrer notre histoire...
Ouais, mais je pense pas que c'est ça le problème, Bernard. Il faut que quelqu'un prenne l'initiative de proposer un projet à la SEDEC.
Ouais, je veux bien,
mais... Puis à Téléfilm Canada et tout.
Il y a un ministre de la Culture, là, ou une ministre de la Culture digne de ce nom, là, qui décide, garde, là, on a quelqu'un, là, qui pourrait être un exemple de courage, quelqu'un qui s'est sacrifié pour les autres, qui s'est battu pour notre démocratie. Hey, t'en suscites des projets, Simonac. Voyons donc.
T'es-tu
d'accord avec moi?
Bien sûr. Mais c'est pas du gouvernement que ça vient.
Mais là, ça vient pas du privé, qui s'organise.
Ça vient d'un créateur, d'abord et avant tout.
Le livre est écrit.
On a le scénario.
Ça prend un scénario, puis ça prend un producteur, puis ça prend un financement qui va venir, j'espère.
Moi, j'ai fait la part du livre, j'ai ramassé, j'ai mis la vérité là.
On vous en remercie, Luc Lépine, historien militaire, conférencier et auteur. Ça a été un grand plaisir. Rappelons-nous donc de ce Léo Major. Vraiment, là, je suis bien content.
Un être d'exception.
Ah, vraiment.
Et il vient nous rappeler à quel point la guerre, c'est affreux.
Oui, non, ça c'est vrai. Parce que je vais te dire, quand vous nous dites qu'il y en a...
Il y en a descendu 27 dans une journée. Là.
Au-dessus de 100.
Au-dessus de ça.
Est-ce qu'il vit... Comment il vivait avec ça en terminant?
Il sentait, il le hantait. Il était hanté parce qu'il était... Sauf qu'il se disait, si j'en ai tué 3, peut-être j'ai sauvé 12 de mes collègues.
OK, merci beaucoup.
C'est ça la guerre, c'est pas beau.
Luc, on revient, on parle d'élection. Beaucoup, beaucoup de choses à dire sur l'élection.